Imaginez-vous au volant d'une voiture sur une route de montagne, en train de négocier des virages serrés. C'est une grosse cylindrée, vous allez beaucoup trop vite. Les phares sont éteints. La route est bordée de ravins. Il faut évidemment allumer les phares. C'est ce que la science essaie de faire. Montrer la route pour voir les risques qui nous menacent.
Les récentes découvertes des scientifiques étudiant le fonctionnement de la planète sont d'une importance capitale pour nous tous. Le constat qu'ils dressent est alarmant. Mais ils délivrent aussi un message d'espoir, car il existe des solutions concrètes. L'un de ceux qui a dédié sa vie à l'étude des problèmes planétaires nous vient de Suède. Il s'agit de Johan Rockström. Les découvertes qu'il a faites avec ses équipes apportent l'un des éclairages les plus importants de notre époque. Johan nous a donné espoir. L'espoir d'une issue à cette crise. Et une fois que vous l'aurez écouté, vous ne verrez plus le monde de la même manière.
Il ne s'agit pas de la planète, mais de nous. Il s'agit de notre avenir. On peut s'en sortir. Nous avons encore la possibilité de donner un avenir à l'humanité. C'est une véritable chance à saisir.
Notre compréhension de la planète progresse constamment. À présent, nous voyons plus clairement que jamais comment la complexité de la vie sur Terre est essentielle à notre survie. Mais la biodiversité s'effondre et notre climat change. Johan Rockström s'est penché sur ce qui assurait la stabilité de notre planète.
Nous sommes la première génération qui, grâce à la science, sait que les hommes sont en train de saper la stabilité et la capacité de la Terre à subvenir au développement humain tel que nous le connaissons. Ces études sur les calottes glaciaires sont, d'après moi, les plus importantes qui soient.
Ce graphique est une révélation. Il montre les variations de la température globale sur les 100 000 dernières années, c'est-à-dire depuis l'apparition de l'homme moderne.
Sur une seule décennie, la température pouvait varier de 10 degrés. Pour simplifier, disons que c'était des temps difficiles.
Le point crucial, c'est que la température s'est stabilisée il y a seulement 10 000 ans.
On voit clairement ici que cette période interglaciaire est remarquablement, pour ne pas dire miraculeusement, stable.
Les géologues ont donné à cette période de stabilité un nom spécifique. On l'appelle l'Holocène.
L'Holocène est remarquable. C'est une période douce durant laquelle la température globale moyenne de la planète ne varie que d'un ou deux degrés. Et ce, durant toute la période. De plus ou moins un degré, un seul degré de variation. C'est ce qui a permis l'émergence du monde tel que nous le connaissons.
Les températures de l'Holocène nous ont donné une planète stable. Le niveau des mers s'est équilibré. Pour la première fois, nous avions des saisons prévisibles et un climat sur lequel on pouvait compter. Cette stabilité a été fondamentale. Pour la première fois, des civilisations pouvaient être bâties, et l'humanité n'a pas perdu de temps pour en tirer profit.
Nous avons appris à cultiver le riz, le blé, le teff, le maïs, le sorgho sur les différents continents à peu près au même moment. Et nous voilà embarqués dans l'histoire des civilisations. C'est cette ère interglaciaire qui a permis le développement de nos sociétés humaines. L'Holocène est la seule période où l'état de la planète est propice au monde moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Depuis les toutes premières civilisations, nous dépendons de cet état stable de la planète. Une planète avec deux calottes glaciaires permanentes, des rivières d'eau pure, un manteau de forêt, un climat fiable et de la vie en abondance. Durant l'Holocène, la stabilité de notre planète a satisfait nos besoins de nourriture, d'eau potable et d'air pur. Mais nous avons maintenant quitté l'Holocène.
La pression exponentielle exercée par l'homme sur la planète a atteint un tel point que nous avons créé notre propre époque géologique.
Les scientifiques ont récemment déclaré la fin de l'Holocène. Nous vivons à présent dans l'Anthropocène, l'âge des hommes, car c'est nous qui sommes maintenant à l'origine des principales transformations de la planète Terre. Nous avons utilisé la moitié des terres habitables du monde pour les cultiver ou élever du bétail. Nous avons déplacé plus de sédiments et de roches que tous les processus géologiques naturels. Nous exploitons plus de la moitié des océans. 9 personnes sur 10 respirent un air impur. Et en l'espace d'une seule génération, nous avons réchauffé la Terre de plus d'un degré.
Il me semble que pour l'humanité, l'information la plus pressante à retenir est celle-ci. Nous avons, en à peine 50 ans, réussi à nous extraire d'un état dans lequel nous nous trouvions depuis 10 000 ans. Est-ce que nous ne risquons pas de déstabiliser la planète entière ? C'est une situation tout à fait effarante. Pour la première fois, nous devons sérieusement mesurer le risque que nous prenons en déstabilisant la planète.
Johan s'est donné pour objectif de considérer le problème dans son ensemble et d'exploiter le réseau des connaissances du monde entier pour apprendre ce qui maintient la stabilité de la planète.
Quels sont les systèmes qui déterminent l'état de la planète ? Y en avait-il 5, 30 ? Au début de nos recherches, on l'ignorait. On cherchait seulement à savoir si on pouvait identifier les systèmes qui régulaient l'état de la planète.
Ces systèmes ont maintenu la Terre dans un état stable tout au long de l'Holocène. En continuant à exploiter exponentiellement la planète, nous risquons de voir ces systèmes se dégrader. Nous dépasserons alors les limites planétaires, ce qui causera l'effondrement de cette stabilité dont nous dépendons.
J'étais absolument convaincu qu'il fallait se consacrer entièrement à la définition de ces limites planétaires. Pouvions-nous identifier et quantifier un seuil au-delà duquel nous risquions de déclencher des phénomènes non linéaires ? Ce seuil serait alors la limite.
Si les scientifiques peuvent définir les limites de notre planète, peuvent-ils également nous indiquer comment nous sortir de la crise actuelle ? Nous montrer non seulement comment éviter l'effondrement, mais aussi comment nous assurer un avenir prospère sur la Terre. La première limite est la plus évidente et la mieux connue. Avec des températures globales à présent plus chaudes qu'elles ne l'ont jamais été, il est à craindre que nous ayons déjà dépassé le seuil critique du climat planétaire. La preuve la plus alarmante est peut-être le changement qui s'effectue au niveau de la cryosphère, l'ensemble des glaces terrestres. En tant que Suédois, Johan le perçoit plus clairement que la plupart.
Comme tous les enfants de Suède, j'ai appris à l'école que le sommet sud du Kebnekaise est le point culminant du pays. Cette connaissance fait partie de l'identité de chaque citoyen suédois. Donc, bien sûr, j'ai été très affecté quand j'ai compris que ce ne serait plus jamais le cas.
La pointe sud du Kebnekaise a récemment perdu son statut de point culminant du pays. Le glacier, qui se situe au sommet, a perdu environ 50 cm par an durant les 50 dernières années.
Ce n'est pas le Kebnekaise à lui seul qui va déstabiliser la planète. En revanche, les deux calottes de glace permanentes en Arctique et en Antarctique sont indispensables pour que la planète reste dans le même état que celui qui a permis le développement de nos civilisations. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement préoccupant de voir les glaciers fondre. Peu importe qu'il s'agisse du petit glacier de Kebnekaise ou de la fonte du Groenland, c'est l'ensemble de ces lieux qui contribuent massivement au refroidissement de la planète.
Cet effet refroidissant a été fondamental pour stabiliser la température globale de la Terre durant l'Holocène. L'énergie solaire était parfaitement réfléchie sur la cryosphère et retournait dans l'espace.
Une surface blanche permanente telle que celle que nous avons à présent autour de nous réfléchit 99% de l'énergie thermique provenant du Soleil. Quand les banquises commencent à fondre, non seulement elles rétrécissent et leurs bords, qui deviennent plus foncés, absorbent la chaleur, mais le simple fait d'avoir du liquide sur la surface de la glace change sa couleur de façon irrémédiable. Rapidement, la banquise passe d'un état où elle s'auto-rafraîchissait à un stade où elle se réchauffe toute seule. C'est vraiment le point de bascule le plus dramatique du système Terre.
Un point de bascule est un seuil au-delà duquel le changement devient irréversible.
C'est un peu comme un train qui commencerait à descendre le long d'une pente. D'un seul coup, les freins lâchent. Le train commence à accélérer et prend de plus en plus de vitesse jusqu'à ce qu'on en perde le contrôle.
Nous perdons déjà les freins qui pourraient éviter la fonte de la calotte du Groenland.
La première fois que je suis venu ici, à 20 ans, j'avais l'impression d'être dans un rêve. J'étais dans un environnement que je n'avais vu que dans des livres.
Jason est l'un des nombreux scientifiques internationaux dont les travaux ont nourri les recherches de Johan.
La neige accumulée depuis un millénaire sur le Groenland a formé un dôme de glace de plus de 3 km d'épaisseur. Et tout là-haut, il fait extrêmement froid.
En fondant, la surface de la calotte de glace rencontre de l'air plus chaud, ce qui accélère encore sa fonte. Plus elle fond, et plus le climat devrait se refroidir pour pouvoir inverser la tendance. Mais désormais, le climat est trop chaud pour le Groenland.
Avec le climat actuel, le Groenland a déjà passé le point de non-retour. Aujourd'hui, sa calotte perd 10 000 mètres cubes de glace chaque seconde. C'est le taux de perte de masse moyen. Ce taux ne fera qu'augmenter au fur et à mesure de l'élévation des températures. Est-ce trop tard pour le Groenland? De toute évidence, oui.
À moins de parvenir à endiguer le réchauffement climatique, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland continuera inexorablement.
Ce qui est terrible, c'est que l'une des caractéristiques des points de bascule, c'est qu'une fois qu'on a enclenché le processus, on ne peut plus l'arrêter. C'est trop tard. On ne peut pas dire « Zut, maintenant j'ai compris. Je ne voulais pas faire fondre la calotte du Groenland. Faisons machine arrière. » Non, c'est trop tard. Quand on franchit le seuil de ces limites planétaires, on atteint un point de non-retour et on engage la Terre dans un processus irréversible où elle s'éloigne d'un état qui était propice aux besoins des êtres humains.
La fonte de la calotte glaciaire du Groenland pourrait élever le niveau des océans de près de 7 mètres.
Imaginez un monde où le niveau des mers n'est pas stable, où il se modifie. Des villes entières, des centaines de villes côtières sont aujourd'hui menacées par la montée des eaux. La stabilité du niveau des océans a été essentielle au développement de la civilisation. Nous faisons face aujourd'hui à un avenir apocalyptique à la Mad Max.
Mais le Groenland n'est que l'une des calottes glaciaires polaires. Elle n'est rien comparée à sa jumelle du pôle sud.
Il n'y a pas si longtemps, on pensait que l'Antarctique avait un certain degré de résilience, que sa calotte polaire n'était pas vraiment affectée par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Nous constatons une accélération de la disparition des glaces et de la banquise de l'océan glacial antarctique.
L'Antarctique de l'Ouest, s'il devait fondre complètement, contribuerait à une hausse du niveau des mers de plus de 5 mètres. L'Antarctique de l'Est contient 10 fois plus de glace, ce qui représente donc une hausse potentielle de 50 mètres.
Ricarda est l'une des collègues de Johan. Elle étudie les liens d'interdépendance des différents points de bascule.
Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'au sein du système Terre, tout est connecté. Si l'une des composantes du système climatique atteint son point de non-retour, ça peut augmenter le risque que d'autres parties du système atteignent à leur tour leur seuil critique. C'est comparable à une ligne de domino. Il suffit d'en renverser un pour créer un effet en cascade. Ce qui est certain, c'est qu'avec le processus de réchauffement climatique actuel, nous augmentons le risque de franchir plusieurs limites planétaires.
Lorsqu'un seuil est franchi, nous enclenchons des changements irréversibles qui transforment la planète. Celle-ci est notre meilleure amie lorsqu'elle est capable de résorber et de réduire les tensions, d'assimiler le dioxyde de carbone et le surplus de chaleur, d'absorber les impacts. En basculant au-delà des seuils, le réchauffement s'auto-renforcera et la planète deviendra notre pire ennemi.
Le climat se réchauffe à cause des gaz à effet de serre. Nos émissions de ces gaz représentent donc un point de bascule global. Bien avant l'apparition des hommes, la température moyenne de la Terre suivait déjà la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone. Durant l'Holocène, cette concentration est restée relativement stable. Mais tout a changé lors de la révolution industrielle. En 1988, il y avait déjà plus de 350 parties par million, ou ppm, dans l'atmosphère terrestre. C'est à cet instant que nous avons franchi le seuil. Depuis lors, nous risquons de déclencher une réaction en chaîne qui renforcera encore le réchauffement.
Avec une concentration en CO2 dépassant les 350 ppm, nous sommes à présent dans la zone de danger.
Ce seuil de 350 ppm constitue la première limite planétaire définie par Johan. Et nous nous trouvons déjà bien au-delà.
Aujourd'hui, nous avons atteint une concentration atmosphérique de CO2 d'environ 415 ppm. Nous sommes maintenant au milieu de la zone de danger et nous commençons à souffrir de certaines répercussions. Il y a un nombre grandissant de sécheresses, de canicules, d'inondations. La fonte des calottes glaciaires et celle du permafrost s'accélère et les feux de forêt sont plus fréquents.
Devant nous se profile un deuxième seuil. Nous approchons rapidement des 450 parties par million de dioxyde de carbone.
La zone de danger est définie par la marge d'incertitude de la science. Aujourd'hui, nous estimons cette marge d'incertitude entre 350 ppm, c'est-à-dire la frontière entre la zone de sécurité et la zone de danger, et 450 ppm, qui marque le seuil entre la zone de danger et la zone à haut risque.
Si nous entrons dans cette zone à haut risque, l'irréversibilité de chaque point de bascule devient très probable, voire inévitable. Cette estimation reste pourtant très modérée si on considère les signes qui nous entourent déjà.
Parlons en termes simples. La limite planétaire du climat est à 1,5 degré de réchauffement. Nous avons de nombreuses preuves que nous prendrions d'énormes risques si nous nous permettions de dépasser ce seuil de 1,5 degré. Nous sommes pour l'instant à 1,1 et nous devrions rapidement atteindre 1,5. Notre seule chance de respecter cette limite planétaire, c'est de parvenir à une économie mondiale sans combustible fossile dans les 30 prochaines années.
Si cet objectif pour le climat a été très médiatisé, Johan savait qu'il ne s'agissait que d'une petite pièce du puzzle. Car la stabilité de notre planète ne dépend pas seulement de son climat.
Davantage de recherches et de preuves ont dû être présentées pour arriver à la conclusion qu'il existait aussi quatre limites portant sur la biosphère. Des limites qui concernent donc le monde vivant. Parmi elles, il y a le changement d'affectation des sols. Qu'advient-il des différents biomes? Les forêts tropicales primaires, les forêts tempérées, les forêts boréales, les prairies, les marais. Ensuite, il y a la biodiversité. Il s'agit de toutes les espèces marines et terrestres. La troisième limite est notre système sanguin, c'est-à-dire le cycle hydrologique. Et enfin, les nutriments essentiels au fonctionnement d'une biosphère en bonne santé, c'est-à-dire l'azote et le phosphore, dont le cycle est perturbé.
La première limite concernant la biosphère porte sur la composition des milieux écologiques de la planète et comment ceux-ci sont transformés par l'homme. L'une des plus grandes étendues sauvages de la planète approche rapidement d'un point de non-retour. Il s'agit de l'Amazonie. Carlos Nobre étudie depuis des décennies l'importance du rôle de la forêt amazonienne dans l'équilibre de la Terre. Il a été le premier à tirer la sonnette d'alarme.
En 1971 ou 1972, j'ai connu l'Amazonie intacte. Il y avait la forêt, les rivières. Je nageais dans le Rio Negro avec les piranhas. Rien ne m'est jamais arrivé.
Depuis cette époque, de larges zones ont été déforestées pour faire place au bétail et à la culture du soja. Carlos a découvert que cela menaçait de provoquer au cœur de la forêt une série de changements irréversibles.
En 1998, nous avons lancé la plus grande expérience scientifique jamais menée dans une forêt tropicale.
De nombreuses tours ont été érigées dans la forêt, afin d'étudier comment celle-ci crée son propre climat. Les résultats montrent que de grandes parties sont en train de s'assécher.
En Amazonie, la saison sèche ne dure jamais plus de 3 mois. Mais avec le réchauffement climatique et la déforestation causée par les activités humaines, et plus particulièrement l'élevage et la culture du soja, la saison sèche a rallongé de 6 jours entiers par décennie depuis les années 80.
Plus la forêt diminue et est fragmentée, plus elle perd sa capacité à recycler l'eau et générer de la pluie durant la saison sèche. Si la saison sèche dure plus de 4 mois, alors les arbres de la forêt meurent et sont remplacés par la savane. Ce phénomène s'appelle la savanisation. Certains signes montrent que l'Amazonie est déjà en train de changer.
Si la déforestation dépasse 20 à 25% et si le réchauffement climatique n'est pas endigué, alors il est probable que 50 à 60% de la superficie totale de la forêt amazonienne subisse ce processus de savanisation de façon irréversible.
Nous avons déjà perdu près de 20% de la forêt amazonienne. Nous sommes sur le point de faire basculer l'Amazonie d'ami de la planète à ennemi de la planète. Quand la forêt se transforme en savane, de nombreux arbres meurent et relâchent du carbone dans l'atmosphère. Carlos a calculé que l'Amazonie pouvait relâcher 200 gigatonnes de carbone durant les 30 prochaines années, ce qui équivaut aux émissions totales mondiales des 5 dernières années.
Nous sommes extrêmement proches du point de bascule. Avons-nous la volonté de faire face à cette crise climatique? Désirons-nous conserver le carbone dans la forêt? Ou est-ce qu'on s'en fiche?
Nous avons aujourd'hui toutes les raisons d'être inquiets. Nous rognons toujours plus sur les écosystèmes au profit de l'agriculture. Nous détruisons la forêt tropicale au point de mettre tout le système Terre en danger.
Il ne s'agit pas seulement des forêts tropicales. Toutes les essences d'arbres sont précieuses lorsqu'il s'agit d'assurer la stabilité de la planète. À tel point qu'une perte de seulement 25% des forêts du globe risquerait de déclencher des catastrophes en série. Or, nous avons déjà rasé plus de 40% des forêts. Nous sommes déjà bien engagés dans la zone de danger. Une autre conséquence majeure de la déforestation est l'érosion de la biodiversité. La biodiversité est la seconde limite planétaire concernant la biosphère, car c'est aussi grâce à elle que notre vie sur Terre est possible. Et nous n'en prenons aucun soin.
La nature est attaquée à un rythme et à une échelle sans précédent dans l'histoire de l'homme.
Anne Larigaudry est une écologiste inquiète face au flot croissant de preuves. Partout dans le monde, la nature est en déclin.
1 million d'espèces animales et de plantes sur un total estimé de 8 millions sont à présent menacées d'extinction. C'est très préoccupant. Si cette tendance négative se prolonge encore, nous pourrions subir une 6e extinction de masse.
En à peine 50 ans, l'humanité a éradiqué 68% de la population animale globale. C'est évident, nous traversons une crise de la biodiversité.
Perdre ce qui fait le tissu de la vie, toute cette biodiversité, menace directement notre propre vie sur Terre. Si la chute de la biodiversité continue sur cette tendance, nous n'aurons plus les capacités à nous nourrir. Car pour cela, on a besoin que la nature fonctionne bien.
Johan a compris cela à la suite d'un incident qui s'est déroulé dans son pays.
J'ai ouvert le journal et j'ai lu que des scientifiques britanniques étaient venus en Suède pour voler des rennes d'une espèce de bourdon particulière. L'article racontait qu'ils étaient venus de nuit pour enlever des centaines de rennes de bourdon afin de les ramener au Royaume-Uni et réintroduire ainsi ce qui avait été détruit là-bas.
Partout en Europe, ces bourdons jouent un rôle clé dans la pollinisation des cultures vivrières. Mais à la fin des années 90, l'espèce était considérée disparue au Royaume-Uni.
On avait là un pays qui se voyait obligé de se rendre chez un de ses voisins pour voler quelques-uns de ses pollinisateurs afin de sauver son agriculture. Personnellement, cette histoire m'a permis de comprendre à quel point c'était grave.
Environ 70% des cultures vivrières mondiales dépendent, dans une certaine mesure, des insectes pollinisateurs. L'expansion de la monoculture intensive conduit à un déclin drastique des insectes. C'est ironique, car en essence, la production alimentaire mondiale détruit le socle même de notre alimentation.
Ceci venait appuyer l'une des trouvailles fondamentales de la recherche en biodiversité. La biodiversité n'est pas quelque chose qu'il faut protéger simplement parce qu'elle est belle. Ou par devoir moral d'une espèce, l'homme, envers la faune et la flore. Non, il s'agit ici de préserver les outils qui permettent à nos sociétés de fonctionner. C'est une pièce essentielle du puzzle pour permettre une production agroalimentaire plus propre, avoir de l'eau potable, emprisonner le carbone dans la terre et favoriser le cycle des nutriments.
Des scientifiques ont essayé de mesurer les bienfaits que nous procurent les insectes lorsqu'ils vaquent à leurs occupations quotidiennes, chaque espèce nous fournissant un service qui lui est propre. Mais ces bienfaits sont pour la plupart incalculables, jusqu'à ce que soudain, ils disparaissent. Une planète sans insectes n'est pas une planète en état de marche. Bien entendu, ce déclin ne se limite pas aux insectes. Les animaux sauvages ont été chassés au fur et à mesure que notre agriculture s'est développée sur la majorité des terres habitables. Aujourd'hui, parmi tous les oiseaux existants sur Terre, 30% seulement sont sauvages. De tous les mammifères du globe, les espèces sauvages ne représentent plus que 4% de la biomasse. Où se situe alors le seuil pour la biodiversité ? Combien pouvons-nous encore nous permettre de perdre avant que nos propres sociétés ne s'effondrent ?
Le monde naturel compte de nombreux points de bascule différents qui sont difficiles à évaluer pour déterminer une limite planétaire concrète en termes de biodiversité, parce que la vie est très complexe.
Un seuil unique à ne pas dépasser peut être difficile à identifier, à cause de la complexité intrinsèque de la nature. Mais une chose est certaine, nous l'avons franchi depuis longtemps.
Nous sommes complètement dans le rouge. Nous avons déjà vu disparaître tellement d'espèces et détruit tant d'écosystèmes que nous sommes maintenant en grand danger. Nous devons stopper l'érosion de la biodiversité aussi rapidement que possible. C'est aujourd'hui qu'il faut se fixer pour objectif dès 2022, c'est-à-dire le plus tôt possible dans cette décennie, d'arrêter de détruire la biodiversité dans le monde. Si pour le climat, on s'accorde un maximum de 1,5 degré de réchauffement, pour la biodiversité, on n'a désormais aucune marge.
La troisième limite de la biosphère porte sur le système sanguin de la planète. L'eau douce est en effet un autre élément essentiel dont dépendent nos sociétés.
Saviez-vous que vous et moi avions besoin d'environ 3000 litres d'eau douce par personne et par jour pour rester en vie? Vous vous dites, comment 3000 litres? 3 tonnes d'eau? C'est pas possible. Certes, 50 litres d'eau nous suffisent pour boire et pour nous laver. Nous autres, dans les pays riches, consommons encore 100 litres pour nos besoins ménagers. Et l'industrie en prélève encore 150, ce qui nous mène à 300 litres. Mais les 2700 litres qui restent sont destinés à la nourriture. C'est la quantité d'eau dont nous avons besoin pour produire tout ce qui se trouve dans nos assiettes.
L'eau douce a une place particulière dans le cœur de Johan. C'était le sujet de sa thèse qui l'a conduit à mener plusieurs années de recherche dans les régions semi-arides d'Afrique.
De l'aube au crépuscule, j'arpentais les chemins. Je suais à grosses gouttes en recueillant toutes sortes de données. Je creusais pour prendre des échantillons afin de mesurer et analyser l'humidité des sols. J'étudiais la vitesse des vents, les précipitations. J'ai mesuré tellement de feuilles. Vous n'imaginez pas les efforts de précision qu'un scientifique doit déployer simplement pour mesurer en millimètres carrés la surface foliaire de chaque feuille sur une plante.
Ce sont ces détails dont il avait besoin pour répondre à une question bien plus grande. Quelle quantité d'eau faut-il pour nourrir le monde?
Lorsque j'ai écrit ma thèse, ma réponse était alors « Oui, il semblerait qu'il y ait assez d'eau ».
Mais tout n'est pas si rose. Existe-t-il un seuil mondial pour la captation d'eau douce au-delà duquel le système commencerait à s'effondrer?
Nous avons étudié les bassins fluviaux du globe et nous avons évalué la quantité d'écoulement minimale nécessaire pour qu'un bassin puisse assurer un ruissellement suffisant de l'eau dans le système et garantir ainsi des écosystèmes en pleine santé, une bonne réserve d'eau et des bassins fluviaux efficaces.
Le volume actuel d'eau prélevé sur nos fleuves et rivières explique pourquoi beaucoup sont à présent menacés d'assèchement.
Pour ce qui est de l'eau douce, notre analyse montre qu'à l'échelle mondiale, nous sommes pour l'instant encore sous le seuil de risque. Mais nous approchons à grands pas de la zone de danger.
La dernière limite touchant la biosphère implique le cycle des nutriments, et plus particulièrement l'azote et le phosphore. Ce sont les éléments essentiels à tout être vivant, et les ingrédients clés de nos engrais. Johan a été un témoin direct des conséquences de leur utilisation croissante. Enfant, il passait ses étés sur une île de la mer Baltique.
On adorait pêcher. La plupart du temps, je pêchais avec mon meilleur ami, Anders, et mon petit frère, Niklas. On partait souvent tous les trois ensemble. On demandait à nos parents s'ils voulaient manger du poisson au dîner, et on revenait tout le temps avec des prises. Lors de nos aventures, on allait à environ 1 ou 2 000 nautiques des côtes. Et là, on attrapait des cabillauds à la ligne. À cette époque, j'étais le plus doué pour vider le poisson. Et je me souviens qu'au bout d'une heure, je devais arrêter de pêcher parce qu'on avait tellement de cabillauds que le seul moyen de les rapporter, c'était de les débiter sur place. Les mouettes tournoyaient et nous harcelaient à cause des entrailles et des morceaux de poisson partout. C'était le seul moyen de procéder pour tout faire rentrer dans la barque. Évidemment, pour des enfants, c'était vraiment le paradis. Aujourd'hui, quelques décennies plus tard, la situation est totalement différente. Personne n'essaie même plus de pêcher du cabillaud. La mer a tout simplement été vidée de ses poissons. Le paysage n'a absolument pas changé. C'est exactement le même que dans les années 70 et 80, vu du ciel. Mais sous l'eau, ça a changé du tout au tout.
Quand Johan était enfant, la mer Baltique était un écosystème sain, dominé par des espèces comme le cabillaud. Si la surpêche a épuisé la plupart des populations de poissons, ce sont les engrais des champs environnants qui ont plongé la Baltique dans la catastrophe. C'est maintenant la mer la plus polluée du monde.
À partir du moment où l'on a à l'échelle mondiale plusieurs mers dans le même état que la Baltique, il y a de quoi être très inquiet. C'est en effet un signal d'alerte qui nous indique que la planète entière est graduellement en train de perdre sa résilience et de s'affaiblir petit à petit.
Elena Bennett est spécialiste des engrais et de leur impact.
L'azote est extrait de l'air, puis il est transformé chimiquement pour qu'il soit assimilable par les plantes. Le phosphore est quant à lui extrait dans des mines. Nous avons mis au point des voies chimiques et des méthodes d'extraction de plus en plus performantes. Ça a permis de doubler, de tripler, voire de quadrupler la production de nourriture sur Terre.
C'était indispensable pour nourrir une population croissante. Mais nous utilisons plus d'engrais que les cultures ne peuvent en assimiler. Les surplus de nutriments finissent dans les rivières et entraînent leur surfertilisation. Ce processus porte le nom d'eutrophisation.
On voit parfois des accumulations d'algues qui ont l'apparence d'une vase bleue et verte à la surface de certains lacs. Elles dégagent souvent une odeur nauséabonde qui est due au pourrissement des algues. Leur décomposition nécessite beaucoup d'oxygène.
La réduction en oxygène modifie la composition des sédiments qui se trouvent au fond des lacs. Ce phénomène libère davantage de phosphore.
Quand il y a une prolifération d'algues, le lac dit en quelque sorte « Super, je vais aggraver le problème ». Il se produit une réaction en chaîne qui se traduit par une production de plus en plus élevée de phosphore dans le lac. Ce processus le maintient dans cet état. L'eutrophisation se manifeste aussi dans les océans où il y a ce qu'on appelle des zones mortes. Les mêmes nutriments y prolifèrent. On trouve aujourd'hui ces zones mortes dans des centaines d'endroits sur la planète.
L'eutrophisation des océans pourrait avoir contribué à l'une des cinq extinctions de masse que la Terre a déjà connues. Aujourd'hui, certaines zones mortes s'étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Bien que peu connue, notre surconsommation de phosphore et d'azote est lourde de conséquences sur la biosphère. Nous avançons déjà dans la zone de danger.
Nous sommes bien au-delà du seuil d'alerte. Malheureusement, ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup. Je pense qu'il est grand temps de prendre cette limite planétaire bien plus au sérieux.
Les nutriments, l'eau, les forêts, la biodiversité et le climat sont les cinq constituants fondamentaux de notre planète. Ils régissent sa stabilité et garantissent notre survie. Mais Johan et ses collègues se sont rendus compte que ce tableau n'était pas exhaustif. Ils n'avaient pas encore pris en compte une autre catastrophe qui frappe nos océans. Son impact sur l'équilibre de la planète pourrait surpasser tous les autres.
Près d'un tiers du dioxyde de carbone que l'on rejette dans l'atmosphère finit dans nos océans.
Terry Hughes est un proche collaborateur de Johan depuis de nombreuses années.
Cela a modifié la composition chimique des océans. Ça a changé le niveau de pH, l'eau est devenue moins alcaline, c'est-à-dire plus acide. C'est ce qu'on appelle l'acidification des océans.
Quand le CO2 se dissout dans l'eau, il se transforme en acide carbonique.
Les eaux froides sont plus vulnérables.
Au cours des dernières décennies, l'acidité des océans de la planète a augmenté de 26%. Tant que la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère restera élevée, les océans continueront de s'acidifier. Quand il entre en contact avec l'eau, l'acide entraîne une diminution de la concentration d'un élément chimique appelé ion carbonate.
Ça a des répercussions sur beaucoup d'organismes, notamment ceux qui ont besoin des ions carbonate pour former leur squelette, comme les mollusques, les huîtres, les moules.
L'acidification des océans n'est pas un phénomène récent.
Le phénomène d'acidification, la baisse du pH, peut déclencher une extinction de masse. C'est arrivé plusieurs fois dans le passé géologique. En continuant à malmener le climat de la planète, nous jouons avec le feu. Les conséquences seront imprévisibles si nous dépassons les limites planétaires. Nous serons alors en territoire inconnu.
Le seuil critique n'a pas encore été franchi, mais l'acidification des océans s'aggrave. Nous pourrions atteindre un point de bascule qui provoquerait une extinction de masse. Malgré la complexité du système Terre, Johan et ses collègues ont identifié 9 limites planétaires qui maintiennent la stabilité de la planète. Les seuils de 2 d'entre elles n'ont pas encore été quantifiés. La première comprend les pollutions d'origine humaine.
Nous les appelons les nouvelles pollutions chimiques. On y inclut les déchets nucléaires, les polluants organiques persistants, les métaux lourds, les microplastiques.
Les humains ont créé 100 000 nouveaux matériaux, dont certains pourraient avoir des conséquences terribles sur l'environnement. À ce jour, nous ne savons pas quantifier l'impact cumulatif à long terme de ces substances polluantes. Mais si rien n'est fait, la plupart d'entre elles pourraient sérieusement déstabiliser l'écosystème planétaire. Il existe une forme de pollution dont l'impact est reconnu à l'échelle mondiale. Une limite lui a d'ailleurs été attribuée.
Les aérosols sont en substance des particules dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle les particules en suspension. 75% des aérosols proviennent de la combustion de carburants fossiles. Ces particules en suspension voilent le ciel. Elles réfléchissent la lumière du soleil comme des miroirs. On appelle cela l'obscurcissement planétaire.
Virabhadran a passé sa vie à étudier l'air qui nous entoure.
Les aérosols ont une autre conséquence sur le climat. Ils empêchent la diffusion de la lumière du soleil, qui est une source majeure d'énergie et de chaleur, et provoquent un refroidissement du climat. Quand un spécialiste affirme que les aérosols refroidissent le climat et atténuent le réchauffement, vous pourriez être tenté de croire que c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cette atténuation due au refroidissement masque l'impact terrible du réchauffement lié aux gaz à effet de serre.
Le refroidissement dû aux aérosols masque jusqu'à 40% des effets du réchauffement climatique. Et cela a de lourdes conséquences. La pollution de l'air tue plus de 7 millions de personnes par an et réduit notre espérance de vie de 3 ans en moyenne. La science n'a pas encore défini le seuil limite de la pollution de l'air.
Just
Compte tenu des 7,5 millions de morts dues aux particules, je dirais que nous avons déjà dépassé la valeur limite de la concentration des aérosols.
La neuvième et dernière limite porte sur la couche d'ozone. Elle a la particularité d'être la seule limite pour laquelle la situation est en cours d'amélioration.
L'ozone nous protège des rayons ultraviolets nocifs qui ont un impact direct sur notre ADN et qui provoquent des maladies mortelles. C'est pour cela que lorsque le trou d'ozone antarctique a été découvert dans les années 80, nous avons été pris de panique.
Quand la communauté internationale a découvert que le trou d'ozone était dû aux polluants relâchés dans l'atmosphère, elle a réduit les émissions de ces polluants.
C'était formidable de voir que les avertissements des scientifiques se transformaient en action politique. C'est le premier et le seul exemple qui montre qu'une solution globale peut être adoptée. Il est possible de retrouver un espace de manœuvre sûr lorsqu'une limite planétaire est atteinte. Nous étions dans une situation critique et nous avons réussi à sortir de la zone de danger.
C'était effectivement un moment formidable. Les scientifiques ont alerté et le monde a réagi. Grâce à Johan et ses collègues, nous savons qu'il y a 9 limites planétaires et ce qu'il se passerait si nous les transgressions. Nous sommes pour l'instant dans la zone de sécurité pour ce qui est de l'ozone, de l'acidification des océans et du cycle de l'eau douce. Nous ne savons pas encore si nous sommes proches de la zone de danger pour ce qui est de la pollution de l'air et des nouvelles pollutions chimiques. Ce qui est très inquiétant, c'est que nous avons déjà dépassé au moins 4 des 9 limites planétaires : le climat, la déforestation, le cycle des nutriments et la biodiversité. Nous sommes en train d'amorcer des changements irréversibles. La situation est si grave que la Terre risque de basculer dans un état qui ne pourrait plus assurer la survie de notre espèce.
Ce qui se passe dans le monde confirme la notion de limite planétaire. Les preuves sont irréfutables. Le climat est en péril. La perte de la biodiversité atteint un niveau alarmant. Par conséquent, les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Les forêts tropicales sont menacées. Les forêts d'Australie et d'Amazonie sont en feu. La fonte des glaces s'accélère. Les récifs coralliens disparaissent.
Pour les scientifiques, les conséquences de ces changements planétaires ne se résument pas à des chiffres. Terry Hughes a passé sa vie à étudier les récifs coralliens.
Un corail blanchi est un corail très malade.
Les coraux blanchissent quand la température de l'eau est trop élevée. Le réchauffement climatique aggrave et accélère ce phénomène.
Les épisodes thermiques extrêmes, comme il y en a eu ces dernières décennies, provoquent un blanchissement particulièrement rapide des coraux. L'empreinte d'un épisode de blanchissement est 10 fois plus importante que celle d'un cyclone tropical de catégorie 5. L'ampleur de l'impact de ces événements est sans précédent. Et la fréquence de ces épisodes est tout aussi inédite.
Terry étudie la Grande Barrière, le plus grand ensemble corallien au monde. Les épisodes de blanchissement étaient rares et peu étendus. Mais ces 20 dernières années, des vagues de chaleur océanique ont considérablement accru le problème. 3 des 5 épisodes de blanchissement les plus graves ont eu lieu ces 5 dernières années.
Ce qui nous inquiète, c'est que les phénomènes de blanchissement ne connaissent plus de répit. Il y a eu, pour la première fois, 2 épisodes consécutifs de blanchissement de la Grande Barrière au cours des étés 2016 et 2017.
Ces épisodes successifs empêchent les coraux de se régénérer. La moitié des coraux de la Grande Barrière sont déjà morts. Terry effectue des observations aériennes pour cartographier l'étendue de chaque épisode de blanchissement.
Quand on fait des observations, on essaie de voler le plus bas et le plus lentement possible pour observer les coraux individuellement. Ça nous permet d'évaluer combien sont blanchis.
Ils sont tous blanchis. Oui, c'est terrible.
Un récif blanchi peut se voir à des kilomètres de distance. C'est éblouissant parce que la plupart des coraux sont blancs.
Toute la crête est affectée, c'est tout blanc.
Nous avons effectué 5 observations aériennes. J'ai dirigé les 3 dernières en 2016, 2017 et 2020. J'aurais préféré ne jamais voir ça. Parce que c'était assez traumatisant. Je suis désolé.
Nous nous dirigeons vers un avenir où la grande barrière se transformera en un cimetière de corail.
Les modélisateurs climatiques nous ont expliqué que si les émissions de carbone se poursuivaient au même rythme, les épisodes de blanchissement se succéderaient chaque été d'ici la fin du siècle. Nous avons franchi le point de non-retour. Les scientifiques et les écologistes comme moi parlons du réchauffement climatique depuis des décennies. C'est vraiment regrettable que nous n'ayons pas été entendus.
Je suis en colère. Je ne suis pas découragé, je suis en colère. Il y a vraiment de quoi être mécontent. La science est claire. Ça fait 30 ans qu'elle nous avertit et nous n'allons toujours pas dans la bonne direction.
I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire. Because it is.
The bushfires in Australia have raged for months, destroying so much of the country's east coast and the wild.
En 2020, l'Australie a vécu un été infernal.
And our only way out is now a treacherous gauntlet of fallen trees and flames.
Provoquées par des températures records et plusieurs mois de sécheresse, les flammes ont décimé près de 200 000 km² de terre. Beaucoup redoutent que ces incendies deviennent la norme. Cependant, la science dit qu'il n'y aura plus de normes. Daniela Texera étudie le cacatoès de l'Atam, l'une des espèces d'oiseaux les plus menacées d'Australie.
Les cacatoès de l'Atam se laissent facilement approcher. Ils apprennent à vous reconnaître. Quand vous vous rendez souvent au même endroit, ils savent qui vous êtes. On peut facilement aller les voir, s'asseoir au pied d'un arbre et étudier chaque individu.
Dès que les conditions l'ont permis, Daniela est retournée sur l'un de ses principaux sites d'observation, sur l'île Kangourou, au sud de l'Australie. Nous sommes en février, c'est la saison de nidification du cacatoès de l'Atam.
Il n'y a aucun signe de vie. Aucun. Il ne reste plus rien. Ça ressemble à une hécatombe. J'arrive pas à reconnaître l'endroit. J'ai du mal à croire que je suis au bon endroit. Ça n'a plus rien à voir. Ça fait 4 ans que je mène des observations sur ce site. C'est vraiment... C'est difficile de voir ça. Ce site était vraiment... C'était plein de vie tous les soirs. Il devrait y avoir des poussins. Ça me brise le cœur. Mon Dieu.
Je connais Sonny. Je m'en souviens. C'est terrible de le voir dans cet état. Il ne reste plus que des morceaux de tôle brûlés sur le sol. Ces plaques de tôle nous servaient à protéger les nids. C'était pour empêcher les opossums de s'attaquer aux poussins. Quand je vois ces protections en tôle à même le sol, je me dis que ça n'a servi à rien. C'est une catastrophe écologique, c'est certain.
Les feux de brousse de 2020 ont été les plus destructeurs de l'histoire de l'Australie.
C'est un phénomène que les scientifiques avaient prédit depuis longtemps. Nous savions que ça finirait par arriver. Mais personne n'imaginait que ça puisse arriver si vite et aussi violemment.
Les scientifiques estiment que 3 milliards d'animaux ont péri ou ont été contraints de migrer durant ces incendies.
Près d'un million et demi de mammifères, 2 milliards et demi de reptiles, 180 millions d'oiseaux et 51 millions de batraciens. Ces chiffres sont si importants, si lourds de conséquences, qu'ils dépassent l'entendement. Aucun écologiste ne devrait avoir à faire ça. Je pense que c'est un coup de semonce. Ces incendies nous montrent que la crise climatique est là, aujourd'hui. Il y aura des conséquences à long terme. Où va-t-il aller ?
Les incendies et le blanchissement des coraux se produisent parce que nous dépassons la limite planétaire du climat. Et c'est la destruction de la nature qui est à l'origine de l'une des plus graves crises de l'histoire de notre planète. La pandémie de Covid-19. Le virus a changé vos vies comme il a changé la mienne. Nous étions mal préparés à faire face aux conséquences planétaires du Covid. Il a saturé les services de santé et a eu des effets catastrophiques sur l'économie mondiale. Contrairement à beaucoup d'entre nous, l'Organisation mondiale de la santé avait vu venir le drame.
Ça n'était qu'une question de temps. Nous détruisions la nature, nous détruisions nos écosystèmes. Nous avons eu des pratiques agricoles très agressives. La déforestation a pris une ampleur dramatique. Si vous ajoutez à cela le fait que nous vivons dans des villes très polluées, avec une densité de population très importante, vous avez là tous les éléments qui contribuent à la propagation de toutes sortes de virus.
Les zoonoses apparaissent et se propagent dans la population humaine lorsque la résilience de la nature est affaiblie. Les pandémies ne se développent pas dans une nature saine.
La transmission des maladies se fait entre certaines espèces dans des circonstances particulières, comme lorsqu'on envahit un espace de manière inconsidérée. La santé humaine, la santé des animaux et la santé de l'environnement sont intrinsèquement liées. Il faut vivre avec la nature et prendre soin de ne pas la détruire ni de bouleverser les écosystèmes où d'autres espèces cohabitent.
Le Covid-19, selon moi, nous a fait comprendre pour la première fois qu'un événement grave qui a lieu à l'autre bout de la planète peut soudain frapper l'économie mondiale et changer nos vies en un instant.
L'émergence du Covid met en évidence le fait que notre planète ne va pas bien. Mais elle nous offre aussi la possibilité d'opérer un changement de direction. Grâce au travail de Johan et ses collègues, les limites planétaires sont visibles de tous Nous savons comment sortir de la zone de danger pour construire un avenir plus résilient. C'est réalisable.
On ne peut plus d'un côté privilégier la croissance économique et de l'autre mettre en place des mesures pour réduire la pollution.
Non.
Il faut entièrement recentrer notre modèle de croissance sur la durabilité et mettre la planète au cœur de tout ce que nous entreprenons.
L'une des priorités immédiates est de réduire à zéro nos émissions de CO2 afin de maintenir les températures globales le plus bas possible.
Nous pouvons encore éviter un réchauffement de plus de 2 degrés, peut-être même de 1,5 degré. Cependant, nos chances sont vraiment très minces.
Depuis le début de la révolution industrielle, nous avons émis 2400 gigatonnes de CO2. Pour rester en dessous d'un degré et demi, nous devons émettre moins de 300 gigatonnes supplémentaires. Si nous continuons à émettre 40 gigatonnes chaque année, notre budget carbone sera épuisé d'ici 7 ans.
Évidemment, on ne peut pas se passer des services de distribution d'énergie du jour au lendemain. La solution la plus adaptée serait d'infléchir la courbe mondiale des émissions maintenant. La science est sans équivoque. Nous devons infléchir la courbe dès maintenant, c'est notre dernière chance. À quelle vitesse pouvons-nous atteindre cet objectif de réduction des émissions? Les études montrent que nous pouvons les réduire de 6 à 7% par an. 6 à 7% par an, c'est une réduction de moitié en 10 ans.
Une réduction de moitié tous les 10 ans correspondrait à une baisse exponentielle.
Nous pouvons tous contribuer. Chacun d'entre nous peut faire sa part. Vous pouvez décider qu'à partir de maintenant, avec votre famille, vous allez réduire de moitié vos émissions tous les 10 ans, ce qui signifierait que vous n'auriez plus aucune empreinte carbone en l'espace d'une génération, en 30 ans. Si vous pouvez le faire, une entreprise, un pays et même le monde peut et doit le faire.
L'abandon progressif des combustibles fossiles amorcera notre retour dans la zone de sécurité en ce qui concerne le climat. Cela permettra également de réduire considérablement la pollution atmosphérique et de ralentir l'acidification des océans, ainsi que la pression sur la biodiversité. Mais mettre fin aux émissions ne suffit pas. Nous devons aussi réduire le dioxyde de carbone qui contribue déjà à l'effet de serre. Il existe une méthode très efficace pour y parvenir. Planter des arbres. La plantation de milliards d'arbres dans le monde entier serait l'une des solutions les plus abordables et efficaces pour atténuer la crise climatique. La reforestation est essentielle pour compenser le CO2 que nous continuons d'émettre pendant que nous nous efforçons d'atteindre la neutralité carbone aussi vite que possible. Les arbres ont bien évidemment d'autres bénéfices environnementaux. Sheikh Embo collabore avec Johan depuis de nombreuses années. Il milite pour la reforestation.
Nous savons que les arbres sont particulièrement efficaces pour lutter contre l'érosion des sols. Mais ce n'est pas tout. Sans arbres, les pluies seraient également moins fréquentes. Quand on plante des arbres dans un champ, on augmente la fertilité du sol et par conséquent le rendement des cultures. Nous souhaitons remettre l'arbre au centre d'une politique de développement durable. Notre objectif est de planter des arbres partout où cela est possible.
La plantation d'arbres et la restauration des équilibres naturels auront de nombreux effets bénéfiques pour la biodiversité de notre planète. Ces efforts contribueront également à stabiliser notre climat et à sécuriser le cycle de l'eau douce. Ils favoriseront la production alimentaire et tous les autres services que la nature nous procure gratuitement. Imaginez que nous puissions, pour la première fois depuis l'aube de l'humanité, nous réveiller un matin sur une planète où la faune et la flore seraient plus abondantes que la veille. Il existe une autre transformation d'une étonnante simplicité et qui est cruciale pour rester dans les limites de notre planète. Elle peut être adoptée par vous et moi, en fait par toute personne ayant la liberté de choisir son alimentation.
Le flexitarisme est porteur d'espoir. Moins de viande rouge, plus de protéines d'origine végétale, plus de fruits, de noix, moins de denrées riches en amidon. Si tout le monde adoptait ce régime et se mettait à manger plus sainement, nous pourrions revenir bien en deçà de la zone de danger. Pas seulement pour le climat, mais aussi pour la biodiversité, les sols, l'eau douce, l'azote et le phosphore. Ce qui est formidable, c'est que manger sainement est peut-être le moyen le plus efficace de contribuer à la survie de la planète.
Une autre transformation est indispensable. Une transformation qui nous permettrait de maîtriser toutes les limites planétaires. Imaginez un monde sans déchets, un monde où rien ne se jette. Nos déchets pourraient être transformés. Quand on conçoit un produit, on prévoit rarement la récupération des matériaux qui le composent. Si nous passions d'un modèle linéaire à un modèle circulaire qui prendrait en compte la récupération des matières premières, notre utilisation des ressources pourrait être infinie.
Il y a de plus en plus de preuves qui démontrent que l'économie circulaire est le seul moyen à notre disposition pour garantir le bien-être de tous les citoyens du monde.
L'élimination des déchets nous rapprocherait de la zone de sûreté pour le climat et la biodiversité, mais surtout pour le cycle des nutriments, les nouvelles pollutions chimiques et la pollution de l'air. Les limites planétaires nous indiquent la voie à suivre. Les solutions sont simples. Faire le choix des énergies renouvelables, manger sainement, planter des arbres, refuser les déchets. Dans leur ensemble, ces choix pourraient transformer notre avenir. Et ce qui est formidable, c'est que ces solutions pourraient améliorer nos vies dès maintenant.
Même si le sort de la planète ne vous importe pas, même si vous ne vous préoccupez pas de la notion d'équité et que vous êtes plutôt centré sur vous-même, sur votre famille, sur votre propre vie, ce qui est tout à fait respectable et légitime quand on doit faire face à la vie de tous les jours, vous auriez tout de même à gagner à vivre sur une planète saine. Tout le monde en tirerait profit immédiatement. L'air serait propre. L'espérance de vie en bonne santé s'allongerait. Les enfants tomberaient moins malades. Retourner sous le seuil de risque des limites planétaires nous permettrait aussi de vivre dans des sociétés où l'économie et l'emploi seraient plus stables. Cela réduirait le risque de conflits et d'instabilité partout sur Terre. Pour résumer, il est de notre intérêt de rester sous le seuil de risque plutôt que de subir des changements irréversibles. D'après ce que nous savons, les choix que nous ferons entre 2020 et 2030 seront décisifs pour l'avenir de l'humanité. Le futur n'est pas écrit. Il est entre nos mains. Ce qui se passera au cours des prochains siècles sera déterminé par les décisions que nous prendrons au cours de cette décennie.
Nous vivons une époque remarquable. Mais elle implique aussi de grandes responsabilités. Nos choix seront décisifs. Nous n'avons pas de temps à perdre.
Que ferions-nous si nous apprenions un matin qu'un astéroïde se dirigeait droit vers la Terre? Je suis persuadé qu'on arrêterait tout et qu'on ferait tout pour régler le problème, quel qu'en soit le prix.
La science est claire. La crise planétaire que nous traversons nécessite une réponse à l'échelle globale.
Je considère que nous ne faisons plus face à une crise environnementale. La déstabilisation de la planète engendre des risques sécuritaires pour toutes les sociétés du monde. Le Conseil de sécurité doit se saisir de ce problème. Les limites planétaires devraient être au cœur de la stratégie politique du seul acteur politique global. J'entends par là le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Nous n'avons jamais été aussi proches d'une réponse à l'échelle mondiale.
Il se passe quelque chose d'extraordinaire en ce moment. Notre espèce, l'espèce humaine, est devenue une force dominante sur la planète. C'est un phénomène qui ne s'est jamais produit au cours de ces 4 derniers milliards d'années. La santé de la Terre est placée sous une surveillance constante. Elle est observée en permanence. La numérisation et l'hyperconnectivité du monde de la science offrent à la planète entière un accès sans précédent aux connaissances. Et si nous étions en train d'entrer dans une nouvelle ère géologique qui ne se limiterait pas seulement à des caractéristiques physiques, mais comprendrait également la notion d'une nouvelle conscience globale?
Grâce aux travaux de scientifiques comme Johan Rockström, nous pouvons désormais devenir la conscience de la Terre, son cerveau. Un cerveau qui œuvre pour une cause commune, le maintien de la Terre dans un état permanent de bonne santé et de résilience. Une Terre idéale.